donc Laurent, je te passe la main. Donc Laurent Delal, qui est manager chez Implied ou business partner, je sais pas si on peut le dire comme ça.
Manager.
Manager, et donc il y a une expérience ou des expériences assez extraordinaires, et avec comme point de convergence de ces différentes expériences, la maîtrise des techniques de mind mapping, des méthodes de mind mapping. Donc Laurent, je te laisse la main.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ça fait maintenant 10 ans que je suis chez Implied. Donc je m'occupe d'intelligence économique, donc veille, protection, influence. Et effectivement, comme vous aviez une session sur les méthodes, les outils, le mind mapping, le management visuel est intéressant. Et ce que je me propose de faire avec vous, c'est quelque chose d'assez pratique. On va voir un peu de théorie, mais quand même des déclinaisons pratiques. Donc je commence d'emblée. Donc d'abord, une petite définition pour que nous parlions tous de la même chose. Le mind mapping, c'est une représentation visuelle des idées, des informations sous forme de cartes composées de sujets principaux, de sujets secondaires et surtout, j'insiste là-dessus, de relations entre ces éléments. Si vous ne faites qu'une carte qui a des éléments épars et vous ne les reliez pas, la carte est intéressante visuellement, mais elle reste statique. Le fait d'établir des relations entre les éléments va rendre votre carte dynamique. Et c'est ça qui lui donne une troisième dimension et c'est ça qui la rend intéressante. Puisque, en gros, on va tout de suite utiliser un mot que j'aime bien, c'est sérendipité. Je vais trouver des liens entre des choses qui ne sont a priori pas reliées. Sérendipité, c'est un mot compliqué, mais qui relate une réalité très simple. Je fais une tarte aux pommes, je renverse la tarte aux pommes, j'ai une alternative, donc deux options, soit je la jette, soit je la présente telle quelle. C'est comme ça qu'est née la tarte tatin. Donc, en fait, c'est trouver quelque chose. Si je vais essayer de le résumer brièvement, que je ne cherche pas. Or, les navigations sur Internet, c'est quasiment tout le temps ça. On va se retrouver à un endroit qui est complètement différent d'où nous sommes partis au départ. Si j'essaie de revenir sur les principes qui président à cette méthode, donc le mind mapping, par d'art de la mémoire, donc il y a d'abord l'ordre qui va compter, l'ordre qui peut être spatial, qui peut être chronologique, qui peut être narratif. Qui peut être logique. Ensuite, vous avez les associations. Vous savez que votre cerveau ne fait que ça. Les synapses, la connectique. Vous associez une couleur à un événement, une odeur à une personne. Quand vous passez devant une devanture de boulangerie, vous savez tout de suite que vous allez être attiré parce que c'est une émotion, hein. Donc, on associe alors des images, de la phonétique, de la sémantique, donc le sens. Et puis, on parlait tout à l'heure des émotions. Et je vais faire un peu de publicité d'une ancienne étudiante à moi, parce que je vois Jean-Baptiste arriver, qui connaît aussi très bien, qui s'appelle Hélène Monnier, avec qui j'étais la semaine dernière. Et Hélène, elle a fait un travail, sa thèse, hein, à Lyon 3, sur la gestion des émotions dans la situation des métiers à risque. Et il y a 6 émotions universelles, hein, c'est ce que nous disait notamment Paul Ekman ou Daniel Goleman. Donc la joie, la peur, la tristesse, le dégoût, la surprise. Et la sixième, c'est laquelle? La colère. Bravo. Jean-Baptiste est parfaitement au fait de ces choses-là. Et en fait, les travaux, je vous conseille, c'est en ligne, hein, on l'a vu tout à l'heure. Hélène Monnier, vous tapez thèse, vous aurez ça, vous verrez que ça préside à beaucoup de nos décisions. Parce que tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est un outil d'aide à la décision. Mon travail, c'est ça, c'est d'aider les décideurs à prendre leurs décisions. Et le mind mapping, c'est un outil d'aide à la décision, mais vous êtes quasiment du matin au soir sous l'emprise de vos émotions. Et les 6 que je viens de citer sont les plus importants. Troisième point important, c'est les combinaisons d'associations, donc les lieux, les cartes. Hein, vous savez que la carte, c'est, pensez à la PNL, hein, c'est quelque chose qui nous met en permanence face à une réalité. Et je peux citer Sun Tzu, je peux citer Clausewitz, qui disait que celui qui maîtrise la carte, il maîtrise évidemment la situation. Les mots-clés, les couleurs, la disposition spatiale, les acronymes. Moi, je suis un grand spécialiste de ça. Les acronymes, c'est pour moi une méthode de travail qu'on m'a apprise depuis des années. Et quand je veux retenir une méthode simple, par exemple, une méthode que j'indique à mes étudiants, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, personnel, professionnel, CEP, le champignon avec un gros pied. Première étape, cartographie des parties prenantes, le C. Deuxième étape, une partie prenante, c'est deux choses, une attente, un impact. Et donc, c'est l'écoute. L'écoute, elle est formelle et informelle. Le P, un des métiers que j'ai exercé, le profilage. Donc, je vais noter tous les détails, même anodins, sur la partie prenante qui est en face de moi, sur l'interlocuteur que j'ai. Même anodin, hein. Elle a un chien, comment s'appelle le chien, le promène combien de fois par jour, à quel endroit? Ça me permettra d'avoir une action. Et enfin, le dernier E, l'engagement. C'est, en fait, une fois qu'on a bien fait CEP, on a fait l'environnement de sa cible, qui peut être un prospect, hein. Et une fois qu'on arrive à l'engagement, c'est la concrétisation de l'action. En gros, si vous êtes arrivé, si le C, le E, le P ont été bien faits, le dernier, c'est une formalité. Ça va vous permettre d'aller vers l'action. D'accord? Cartographie, écoute, profilage, engagement, acronyme, comme le champignon. Autre méthode, bien sûr, les chiffres. Hein, un chiffre est associé, regardez ce que j'ai à mon poignet, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a un chiffre, bon, je ne vais pas vous donner la signification, c'est un peu personnel, mais pour moi, c'est une signification. Donc, on associe également des événements, des pensées, des solutions à des chiffres. Et puis, la répétition, depuis que j'ai commencé à parler avec vous, je pense que j'ai dû déjà répéter plusieurs fois la même chose. Donc, l'effet de répétition, c'est également un principe qui préside au mind mapping, les répétitions, les espaces, la mémoire épisodique, hein. Donc, voilà, les principes qui sont à la base de ces méthodes, qui sont bien sûr des principes de mémorisation. Alors, est-ce que c'est une formation pour les enquêteurs? Je parlais tout à l'heure avec les personnes qui sont autour de moi, donc Charlotte, et je disais à Charlotte qu'un enquêteur, ce n'est pas forcément un policier ou un gendarme. Il n'y a pas besoin d'être policier ou gendarme. L'enquêteur, c'est la personne qui a un sens de l'observation développé, qui a du bon sens par derrière et qui va prendre une décision. Donc, je répète, observation, bon sens, prise de décision. Il n'y a pas besoin d'être, encore une fois, formé par les services de l'État, de renseignement ou de police pour arriver à ça. Il suffit encore d'avoir ces dispositions. En fait, ça veut dire aussi ne pas avoir d'a priori par rapport à une situation. Et donc le mind mapping, ben en fait, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet de prendre des notes, de développer votre créativité, de communiquer, d'organiser, de rédiger et de mémoriser. Moi, ça fait quelques années que j'ai été. Ils ont regardé ce que je faisais, bien sûr, mais Xmind, qui est une solution, je ne suis pas marié avec eux, mais pour moi, c'est la plus ergonomique qu'on puisse utiliser pour démarrer en tout cas. Et je vous la conseille. Alors, je vous donnerai le lien. On verra quelle version utiliser, mais Xmind est très intéressante. Après, puisque je parle avec des spécialistes, des techniciens, ce que je ne suis pas, moi je suis sur le facteur humain, les serveurs étant externes, on ne va pas mettre des données sensibles qu'on va donner à Xmind. On est bien d'accord là-dessus. Le mind mapping, en fait, c'est le management visuel de votre pensée. Ça, c'est un monsieur qui s'appelait Tony Buzan, on va le rendre à César qui lui appartient, dans les années 70. Alors, il parlait en anglais, hein, de visual thinking. Et en fait, c'est très simple, hein, c'est dès que vous recevez une information graphique, vous divisez, vous faites de l'analyse chromatique, vous divisez les couleurs. Plus vous allez aider votre cerveau à comprendre et à diviser, plus vous allez aller, plus vous allez comprendre une situation. Donc, c'est le principe de base du mind map. Et dans votre cerveau, normalement, il y a deux hémisphères, hein. L'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Ça, on sait ça depuis à peu près les années 50. Donc, l'hémisphère gauche, vous êtes sur les mathématiques, la logique, les mots, le liste, le raisonnement. Ben, si pour les membres de la DIRA, je pense que vous êtes bien concernés. En plus, je rajoute une couche. Nous sommes français, donc nous sommes cartésiens. Donc, nous sommes vraiment bien à gauche. À droite, et c'est ça qui est intéressant avec le mind mapping, on va essayer d'aller alourdir votre capacité à la couleur, à la créativité, à la génération d'idées, à l'imaginaire, à la pensée globale, au lâcher prise. On parlait de psychologie tout à l'heure. En gros, vous êtes 85-15. L'idée, c'est d'essayer de vous amener à 65-35. On n'arrivera pas tout de suite à 50-50, hein. Voilà un peu pourquoi on est bâti comme ça. Et en gros, dans les écoles d'ingénieurs, dans les métiers techniques, la cyber, tout ça, on est quand même beaucoup plus à gauche qu'à droite. Alors, comment se fait-il que j'ai l'audace de vous parler de ça? Ça fait donc 10 ans que moi, je suis chez Implead, et chez Implead, je fais du management du risque. Et un des outils qui me permet de faire ça chez mes clients, qu'est-ce qu'on me demande concrètement? C'est de la cartographie des risques. Donc, pour moi, c'est comme une arme de service pour un policier, un stylo pour un enseignant. Le mind mapping, c'est, oui, je ferme les yeux, j'ai du mind mapping dans ma tête, hein. Je vais associer notre ami qui vient de rentrer à l'ami qu'on a en commun. ou un autre ami qu'on a en commun. Toujours. Je vais associer notre camarade qui est à ma droite à un autre métier également. Vous voyez, toujours, on ne procède que par association. Alors, le logiciel que je vous recommande de télécharger, encore une fois, je ne suis pas marié avec eux, je ne suis pas leur salarié, je n'ai rien à y gagner matériellement, mais je recommande ce logiciel parce que j'en ai testé une cinquantaine et c'est pour moi le plus ergonomique, le plus user-friendly, même si je vais essayer de ne pas employer trop d'acronymes britanniques. Alors, je vous recommande la version 8. C'est la plus aboutie, ce n'est pas un modèle économique payant parce que cette entreprise a, comme d'autres, des moyens de vous faire payer à un moment donné un logiciel. Donc, la version Zen ou la version 2020, par exemple, se deviennent payants. Celle-là, elle reste gratuite. Donc, je vous conseille la version 8. J'ai mis le lien. Alors, ce qui est intéressant avec Xmind et pourquoi je le recommande, c'est parce que c'est une base de données universelle. C'est-à-dire qu'il y a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui collaborent en ligne et qui mettent leur carte en ligne. Et donc, plutôt que de vous fatiguer à aller reprendre quelque chose, est-ce que quelqu'un connaît le best-seller des presses universitaires de Grenoble?
Le
Le best-seller des PUG, des presses universitaires de Grenoble. 500 000 exemplaires. C'est de la psychologie de l'engagement. Eh bien, je vous le conseille à tous. C'est une petite merveille. Je vous montrerai un mind map de ce bouquin. Vous n'aurez même pas besoin de le lire en entier dès le départ. C'est le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Beauvoir et Jouvent. Vous savez que vous êtes manipulé du matin au soir. Et que vous manipulez du matin au soir. Et d'ailleurs, le plus grand manipulateur, c'est le bébé que sa maman laisse à la crèche et qui hurle à la mort. Et quand elle a passé la porte, il arrête de crier. Mais comme ça, elle va culpabiliser toute la journée le fait de l'avoir laissé. Donc lui, il a déjà tout compris. Donc je cite ce bouquin pour la psychologie de l'engagement, Le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Alors, je suis allé en Suisse, je suis allé participer aux journées de l'intelligence économique, puisque c'est mon métier, et j'ai rencontré trois personnes. Donc lui qui fait le même métier que moi, cette femme qui est une des 10 femmes les plus influentes de Suisse, qui est prof à l'EPFL notamment. Et puis ce monsieur qui est journaliste dans un très très bon quotidien que je lis régulièrement, qui s'appelle Le Temps, je vous conseille, qui est très très bon. Alors, pour ne pas tomber d'une armoire quand je voyais ces personnes, je me suis préparé des cartes en avancée de phase, c'est-à-dire avant d'arriver sur zone, comme on dit dans le métier, pour moi. J'ai fait ces cartes uniquement pour moi. Et donc, j'avais des éléments de parcours, j'avais les fonctions occupées par ces personnes, les personnes de leur réseau, les entités où ils ont travaillé et les avis qu'il y a sur eux. D'accord? Pareil pour les trois.
Il n'y a pas beaucoup de couleurs dans
Il
les...
n'y a pas beaucoup de couleurs et en plus, elles ne sont pas très belles, mais elles sont pour moi. Elles me permettent, en fait, d'en avoir sous le pied. Alors, surtout, jamais donner tous les éléments qu'on a trouvés dès le départ. Parce que la personne va dire, qu'est-ce que c'est que ce mytho? Je l'ai jamais vu de ma vie, il connaît tout ça. Non, vous ne donnez que ce qui est intéressant par rapport à l'enjeu. Stakeholder, c'est quoi en anglais? Stake, c'est l'enjeu. To all, tenir. Quel est l'enjeu qui est présent dans l'échange que nous avons, dans l'interaction interpersonnelle? Vous me suivez toujours? Vous gardez le reste sous le pied. Mais vous ne donnez que ce qui peut être intéressant par rapport. Parce qu'encore une fois, si vous lui dites, sympa le Range Rover rouge, là, et la fille à côté, c'était votre petite copine ou c'est votre sœur? Ben, le type, il va dire, qu'est-ce que c'est que ce gars-là? J'ai jamais vu de ma vie. Vous allez lui faire peur. Aujourd'hui, avec l'OSINT, vous avez des formations en OSINT, on en a parlé tout à l'heure, vous êtes capable de trouver énormément d'informations. Je vous rappelle les réseaux sociaux. Je vais faire un peu de pub pour un autre bouquin qui s'appelle Le renseignement humain à l'ère numérique, qui est de Terry Zimmer, un de mes camarades. Et Terry m'a demandé de rédiger le paragraphe dans le bouquin sur, enfin le chapitre sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le creuset de l'information aujourd'hui. Je vous rappelle, Laetitia Hallyday, elle a fait perdre 12 millions d'euros à son mari parce sur les conseils d'un fiscaliste, il avait pris le statut fiscal suisse. Or, il faut résider 6 mois de l'année en Suisse. Qu'est-ce qu'a fait l'enquêteur suisse? Il a repris Instagram où elle poste des photos tous les jours et il a dit, mais non, ils n'ont pas 6 mois de l'année sur Suisse. Vous allez perdre le statut. D'accord? Donc, encore une fois, c'est très simple. Il faut être conscient, faites en face de moi là. Je n'ai pas 5 personnes, j'en ai 10. À côté de chacun d'entre vous est assis votre double numérique, c'est-à-dire ce que vous avez laissé, mais ce qu'on a laissé aussi sur vous, les éléments positifs ou négatifs. Il faut être conscient de ça. Et ce n'est pas avec Google que vous allez trouver ça. Il y a d'autres outils. Je pense à vos formations en usine qui vous apprennent comment est-ce qu'on va trouver de l'information. Alors, je vais quand même recommander d'autres outils. Hein. Il n'y a pas que Xmind. Je vous ai mis Gephi, qui est une solution intéressante. Bonjour. On peut injecter du SQL, donc des bases de données, et ça va vous faire une représentation en trois dimensions. Donc ça, c'est intéressant. C'est gratuit. C'est pas mal non plus. Il y a une autre solution. Alors, ce n'est pas du mind mapping au sens propre. C'est de la carte conceptuelle. C'est CMapTools. C'est-à-dire qu'on part d'en haut, on va jusqu'en bas. Alors que le mind mapping, on part du centre et on va dans le sens d'aiguille du monde. Très intéressant également. Tout ça, c'est gratuit. Et puis les deux qui sont des solutions en ligne, c'est MindMaster et Mindomo, que j'utilise également. Alors là, c'est encore pire, je dirais, que Xmind en termes de protection des données, puisque là, vous mettez carrément la carte se fait en ligne. Et pour des personnes qui sont en mode collaboratif aujourd'hui, hein, c'est le terme usité, ça peut être intéressant. J'aime beaucoup cette cartographie parce que elle vous permet de savoir quelle est la marge de négociation que vous avez dans n'importe quelle situation. Alors vous allez me dire, Monsieur Duval, vous êtes bien gentil, c'est facile à poser sur le papier, c'est moins facile dans la réalité. Je suis d'accord avec cette critique que je me fais d'emblée. Donc alors, vous allez tracer cinq colonnes. Première colonne, on n'a pas d'en parler depuis le début, les parties prenantes, donc les acteurs. Deuxième colonne, les objectifs. Vous savez, très souvent, quand il y a une situation entre deux personnes, il y a un objectif qui est affiché, mais ce qui est plus intéressant, c'est quel est l'objectif caché qui est derrière. Ensuite, vous avez la stratégie. Je vous rappelle, la stratégie, c'est là où vous voulez aller. On oppose ça à la tactique en termes militaires. La tactique, c'est les moyens pour y aller. Ensuite, vous avez les contraintes. On a tous des contraintes. Et enfin, vous avez les ressources. Et moi, d'ailleurs, je pourrais même subdiviser cette dernière colonne en ressources pertinentes et en ressources impertinentes. Cette histoire, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est Martin qui donne la moitié de son manteau à un pauvre. Est-ce que quelqu'un la connaît, cette histoire? Alors donc, dans les personnages, vous avez donc Martin le pauvre. Bah, les objectifs affichés pour Martin, c'est de faire la charité, donc une bonne action. Mais en fait, derrière cette bonne action, il a un objectif caché. Il veut se faire sanctifier. Donc derrière quelque chose qui a l'air d'être positif, il y a une intention qui l'est un peu moins, qui est en tout cas plus égoïste. Le pauvre, lui, il veut simplement avoir chaud. Et la vraie intention du pauvre, son objectif caché, c'est de survivre. Mais il a honte de le dire. Dans la stratégie, bien, Martin va donner la moitié de son manteau. Et le pauvre, il faut qu'il soit au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Et dans les contraintes, et si vous n'avez pas compris ça, vous ne comprenez rien à l'histoire, en fait, Martin est un officier de l'armée romaine respectueux du codex, de l'ensemble des règles. Or, pour que l'armée romaine maintienne ses personnels d'active, elle possède l'autre moitié du manteau. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez essayer de négocier pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, quelque chose qui n'est pas négociable. Pour le pauvre, c'est d'être à l'heure et de trouver quelqu'un de généreux, bien sûr, dans les contraintes. Et puis pour les ressources, ben, Martin, il est doté d'un manteau, d'une épée et d'un cheval. Et puis, le pauvre, c'est son aspect misérable. On ne va pas faire l'aumône à quelqu'un qui est bien en tchéroutis, hein. Alors, quelle est la ressource qui, pour vous, n'est pas pertinente dans cette histoire pour le Martin? Parce qu'il a une épée, un manteau et un cheval. Ben, le cheval. Le cheval, dans l'histoire, il n'a rien de pertinent. Je ne sais pas s'il y a des cavaliers parmi nous, ou en présentiel ou en distanciel, mais ce que je vais faire, seul un cavalier a le droit de le faire. Comment est-ce qu'on montre à un cheval qu'il est impertinent? On lui montre une boîte de Findus. J'ai bien dit, seul un cavalier a le droit de faire cette blague qui est très limite. Vous vous souvenez que Findus, ils avaient mis de la viande de
Bien
cheval
sûr.
roumain dans les lasagnes de bœuf. Vous vous souvenez de ça? Gros scandale avant la pizza de chez Nestlé. Alors, je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. Un réseau social, pour quelqu'un comme moi, c'est beaucoup moins ergonomique que pour vous, puisqu'en fait, je vais avoir un mur, des projets, des messages, des événements, des forums, des amis. Et moi, mon travail, ça va être d'aller creuser pour en extraire la substantifique moelle de chaque brique. Et je ne vais me commencer à passer à autre chose que lorsque j'aurai vraiment extrait tout ce qui fait la quintessence des informations qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire que, alors ça, c'est pas du flicage, hein. Je vous ai mis le lien internet en dessous. C'est de l'exploitation systématique des traces laissées sur. On peut travailler dans tous les sens. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cet ouvrage. Je voudrais vous recommander vraiment la lecture. C'est la deuxième édition, là, que vous avez à gauche. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire un mind map, une fiche de lecture, en fait? Vous allez me mettre la couverture au centre. Sur la droite, on m'a mis la thématique de cet ouvrage. Donc, c'est de la psychologie de l'engagement. Vous avez tout en haut à droite, on commence toujours par la droite, hein, comme les aiguilles d'une montre, les objectifs. Qu'est-ce que sont les objectifs de la manipulation? C'est de contrôler, d'arriver à ses fins, de profiter d'une opportunité, et surtout, je pense que vous êtes tous conscients, mon cher Charlotte, de se servir de l'autorité. Ça, c'est certainement un des biais les plus importants. Ensuite, vous avez les moyens. Donc, la stratégie, comment elle se fait? Ben, par le pied dans la porte au nez, le leurre. Et là, je vous ai mis en rouge le plus important des moyens de manipulation, même si vous n'aimez pas ça, le toucher. Vous savez, c'est le commercial un peu offensif qui va rentrer dans votre sphère intime, en fait, hein, et qui va utiliser ce principe. Il y a une prof à l'EM à Lyon, qui s'appelle Tsessay Melkonyan, qui a fait des études là-dessus. Même si vous n'aimez pas être touché, ça va changer de principe neuronal jusqu'à 50%. Donc c'est très important. Même les gens qui appartiennent à des cultures qui n'aiment pas être touchés, comme je pense aux Chinois, par exemple. De l'autre côté, vous avez donc la stratégie par la contrainte. Vous savez que quand il y a contrainte, il n'y a pas rencontre des volontés, donc le contrat n'existe pas. C'est même pas qu'il est caduque, il n'existe pas. Hein, quand on met un pistolet sur la tempe. Comment est-ce qu'on diminue les effets des manipulations? Puis tout en haut, vous avez les neurones contre la raison, puisque ça se passe dans votre cerveau, et vous avez en gros les cortex, et de l'autre côté, la centrale des émotions, si tu as lu les travaux d'Hélène, c'est l'amygdale. Non pas les amygdales, hein, d'ici, hein, l'amygdale du cerveau. Voilà, donc là, vous avez un résumé du bouquin. Alors moi, je travaille beaucoup sur la fraude, et notamment la fraude au président. Vous savez, Gilbert Chicly, vous recevez un coup de téléphone, c'est votre patron, c'est le numéro de votre patron, hein, au téléphone. La voix, c'est la voix de votre patron qui vous dit, il faut virer 3 millions d'euros avant 15 heures sur tel compte. Ça se passe ou ça ne se passe pas? Enfin, bien sûr que ça se passe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie. Comme c'est le numéro du patron, c'est la voix du patron. On n'a pas envie de l'embêter ou quoi. Donc, moi, je vais former des contrôleurs de gestion, par exemple, pendant 2 jours, c'est cette thématique. Et comment je peux rester pendant 2 jours avec ce seul mind map? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Est-ce que vous voyez ce qu'il y a à la fin de chaque branche? Vous les voyez, les documents? C'est-à-dire qu'en fait, le mind mapping, ça peut servir de support média. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des dossiers papier, là, vous avez, en fait, tout un ensemble comme une présentation avec un PowerPoint. On peut faire des scénarios, on va développer des scénarios. Donc, dès le départ, vous voyez qu'il y a tout un ensemble de formats qui sont capables d'être utilisés avec le mind mapping. Là, vous avez Xmind, vous avez du Word, du PDF, de l'Excel. On peut coller tout ce que vous voulez à l'intérieur. Simplement, il faut que la carte, elle soit toujours intelligible. C'est-à-dire que vous voyez que je vous ai mis des petits 1, petits 2, donc objectif, méthode, public, ressources, séquence. Et là, je vous ai mis un exemple en bas. Je ne sais pas si vous le connaissez tous, Candide de Voltaire, le fameux chapitre sur il faut cultiver son jardin. Donc, on peut démarrer à l'intérieur de cette carte une autre carte en recliquant dessus. Hein. Et puis, donc, on peut appliquer ça à tous les endroits où on va aller. Moi, j'interviens dans différents endroits. Il y a l'IDRAC, la CATO, l'ENA qui a changé de nom, vous savez, Sciences Po, l'École des magistrats. Et à chaque fois, on a des déclinaisons qui vont être particulières. Oui.
Ouais, j'ai une petite question sur Xmind. On peut travailler vraiment en collaboratif? On
Non,
donne des
pas
accès?
encore.
Non, ok.
Ils sont en train de développer la. En revanche, les deux solutions que je vous ai montrées, Mindomo et MindMaster, le font. J'enseigne à Sciences Po, on a en dotation une autre solution qui s'appelle Mind Manager, qui est assez chère, qui l'a également. Après, pour être très franc, à Sciences Po, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais la méthode de formation à Sciences Po, c'est thèse, antithèse, synthèse. Donc, quand vous leur présentez une situation à 360 degrés, ben vous allez à l'encontre des canons de la formation qu'ils ont eue. Donc, c'est plus compliqué, ils ont plus de mal à l'appréhender. Mais Mind Manager est une bonne solution. Et contrairement à Xmind, on peut programmer à l'intérieur. Quand je m'adresse à des techniciens, ce qui n'est pas le cas avec Xmind. Moi, j'ai travaillé chez des gros clients et ils étaient intéressés, ils avaient suivi mes cours à la fac de médecine notamment. Et ils m'avaient dit, Laurent, une fois qu'ils étaient en situation, viens chez nous, on a des flottes de camions, tout ça. Et on a commencé à rentrer. Et en fait, quand vous rentrez trop d'informations, ça explose, c'est pas fait pour. Donc, Xmind, c'est une bonne solution pour appréhender la technique. Après, professionnellement, si vous voulez rentrer des centaines de données, ça va poser un problème. Alors, si on revient par exemple à la thématique qui est la mienne, l'intelligence économique, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, vous voyez que ça va embrasser tout un ensemble de directions dans l'entreprise. Donc, la com, les médias, la stratégie, l'audit, le conseil, la compta, la finance, la gestion des risques, le juridique, les technologies d'information, la communication, le commerce, le marketing. Et si vous regardez sur la gauche, vous voyez que dans les TIC, vous avez mind mapping et cartographie. Vous voyez, c'est pas moi qui l'invente. Donc, le mind mapping est bien une dimension propre de l'intelligence économique. C'est quelque chose qui est représenté en carte, c'est quelque chose d'important. Et si on vient à une thématique que vous connaissez tous, La cyber, chaque jour, vous savez qu'il y a des nouvelles dimensions. Vous voyez que tous les métiers de la cyber, on essaie de les répertorier par grande gamme. Vous avez l'OMCO, l'opération maintien en condition opérationnelle, comme disent les militaires, le support, la gestion des incidents, le conseil, l'audit, l'expertise, le pilotage, l'organisation, la gestion des risques et le management de projet. Vous voyez qu'à chaque fois, vous avez des tas de métiers qui sont concernés. Et je pense à un métier en particulier, celui de DPO, Data Protection Officer, qui devient de plus en plus important, qui est même une fonction imposée, obligatoire dans les grands groupes. On a d'ailleurs, j'enseigne, on a un master de cyber à Montpellier, à la fac de droit, et on a développé un nouveau diplôme, un DU, un diplôme universitaire, pour les DPO. On va les pousser en compétences pour être capable d'avoir la chance de pouvoir avoir l'agrément de l'État. Les personnes qui sont autour de vous, c'est-à-dire votre meilleur ami, votre petit ami, votre parrain, votre père, ils sont forcément, nécessairement, je dirais, au courant de votre problématique, sinon ce n'est pas des proches. En revanche, ils n'ont pas de solution, sinon ils vous l'auraient déjà donné, sinon ce ne sont pas des amis. Mais ce qui est vrai pour eux n'est pas vrai autour. Les amis de ces amis, eux, ils ont peut-être moins connaissance de votre besoin, mais ils ont peut-être beaucoup plus les moyens d'y répondre. Et ce qui est vrai sur la deuxième tranche, l'est encore plus vrai à la marge. C'est-à-dire que la solution à votre problématique, elle n'est pas au centre, elle est à la marge. Et pourquoi vous restez au milieu? Vous voulez que je vous dise pourquoi vous restez au milieu? Parce que vous êtes dans votre zone de... Vous préférez toujours parler à des gens que vous connaissez. Parce que on a un réflexe d'intimité, de proximité et donc de confiance, fiducie. Mais la solution, elle est à la marge. Alors comment on sert de ça pour faire du marketing viral? En fait, Charlotte va acheter une paire de chaussures rouges sur un site marchand. Je ne vais pas en citer, mais vous les connaissez. On va prendre en compte le fait que Charlotte, elle a dans son réseau un certain nombre de personnes qui lui ressemblent, qui ont sans doute les mêmes goûts. Et sans la prévenir, c'est ça qui est un peu limite en termes de RGPD, grâce aux cookies, mais c'est vous les techniciens, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dérober, si j'ose dire, son carnet d'adresses et on va envoyer la publicité de son achat à tous ses contacts, sans qu'elle ne soit au courant. Puisqu'on part du principe qu'il y a nécessairement dans ces relations des personnes qui auront les mêmes goûts qu'elle. On va la faire plus simple. JB vient me voir à mon bureau. Il me dit, Laurent, je suis embêté. Je pars avec ma copine à Biarritz à la fin de la semaine. Là, il y a un grand week-end de 3 jours. Mon ordi ne fonctionne plus. Est-ce que je peux te le prendre pour trouver un Airbnb? Bon, ça, moi, ça va un peu m'énerver, mais comme je le connais bien, je lui prête mon ordinateur. Ce que je pense que je ne le ferai jamais avec JB, mais pendant un quart d'heure, 20 minutes. C'est pour la fin de l'exposé. Il part au bout de 20 minutes. Qu'est-ce qui va se passer toute la matinée? Qu'est-ce que je vais recevoir jusqu'à midi? Bah, des publicités sur les restaurants, les locations de voitures, les hôtels à Biarritz. Oui ou non? Vous voyez que ça fonctionne. On est bien d'accord. Ça vous est tous arrivé. Alors, pourquoi est-ce que je vous recommande d'utiliser Xmind? Encore une fois, je ne suis pas du tout marié avec eux, mais j'essaie de vous faire un mind map pour vous dire. D'abord, c'est gratuit. On peut le démarrer depuis une clé USB. Donc, on peut, si on n'a pas les droits admin sur la machine, on peut quand même travailler. Vous voyez que je ne suis pas technicien, mais il y a quand même des petites choses que j'ai. On va faire du mind mapping. On peut rajouter une timeline, ce qui est intéressant. Je vais vous montrer tout à l'heure des exemples. On peut faire des raccourcis. Ça se fait avec une souris. Hein. Si on n'a pas de souris, le mind mapping, c'est très compliqué. Il faut une souris. On va établir des relations entre les éléments. On va insérer des images. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qu'il faut absolument des images. Et on peut travailler en réseau et c'est très efficient. D'accord? Voilà un peu pourquoi je vous recommande XMindUI. Et c'est un modèle qui restera gratuit. Même si, alors, je dis ça, mais j'ai bien en tête la maxime des écoles de commerce, quand c'est gratuit,
C'est mon produit, c'est
c'est
mon
vous.
produit.
On est bien d'accord. Je l'ai quand même en tête, hein. Alors, ça permet surtout de capter l'attention. Ça, c'est la raide de poisson, vous savez, Chikawa, cause effet. Quand j'ai des étudiants en quatrième, cinquième année qui me donnent leur rapport, il n'y a rien de plus, au bout du 40e, fastidieux, parce que c'est deux couleurs. Donc, une fois que vous avez rédigé tout le chapitre, vous rentrez ça dans un générateur de nuages de mots. Et le nuage de mots, vous le mettez en tête du chapitre. C'est-à-dire que même pour vous, le rédacteur, vous allez savoir sur quoi vous insistez. Et pour le correcteur, avant même qu'il ait commencé à lire, il va avoir une idée, alors tu parlais de sommet, de ce qui va se trouver dans le chapitre. Est-ce que je suis assez clair? Et moi, ça me plaît. C'est une méthode qui me plaît. Alors, il y a quelques années, on m'a demandé de travailler avant que ça chute, parce que c'est toujours facile de dire après coup. On m'a dit, Monsieur Delal, parce que moi, mon métier, hein, je me suis présenter un peu vite, mais c'est faire la due diligence. C'est surtout ça que je fais, hein. Donc la due diligence de réputation. Vous comprenez tout ça? Faire une étude sur une entreprise, hein, et un sujet de l'économie, ça peut être une association d'ailleurs, et essayer de trouver quels sont, est-ce qu'on va avoir un problème à travailler avec lui ou pas, en interrogeant les fournisseurs, les clients, toutes les parties prenantes, comme j'en parlais. Donc bio, c'est bon, donc j'ai commencé à travailler dessus, et puis je me suis aperçu que, en fait, vous savez, comme McDonald's, le business model de McDonald's, c'est quoi? C'est vendre des steaks? Non, c'est de. Voilà.
De l'immobilier.
Exact, real estate. Regardez le film The Founder. Excellent.
Excellent.
Et bien là, c'est pareil. En fait, je me suis aperçu grâce au mind mapping, je vous le montre là, que tout reposait sur un homme qui était le gérant de toutes les boutiques. Et donc, quand il y en a une ou deux ou trois qui ont commencé à partir en live, ben, toute la pyramide de Ponzi, hein, pour reprendre le terme approprié, s'est effondrée. Et donc, j'ai dit à l'époque aux clients qui voulaient investir là-dedans, je lui ai dit, je serai à votre place, je ne le ferai pas. Et je vais sauver la mise puisqu'il était prêt à investir une belle somme dedans. Donc en fait, effectivement, quand vous présentez les choses de manière schématique, vous allez comprendre des éléments, je l'ai dit tout à l'heure, la sérendipité, qui n'étaient pas reliés au départ. Il m'est arrivé de travailler avec des procureurs, et un procureur, vous savez, il a des dossiers qui font 600 pages. Si vous lui mettez en tête de dossier un résumé absolument synthétique, mais qui présente l'intégralité du dossier, ensuite il va avoir le détail. Et ça va l'aider, encore une fois, je vous ai dit, hein, c'est un outil, on ne décide de rien, mais c'est un outil simple d'aide à la décision. En revanche, ça ne reste qu'un outil, c'est-à-dire que c'est à vous d'alimenter, de mettre les données à l'intérieur qui vont lui rendre de la pertinence. Ça ne fait pas tout, hein. C'est juste, ça va aider votre cerveau à comprendre la situation.
Juste une question de vocabulaire.
Ouais.
Tout à l'heure, tu mentionnais les caractéristiques, et là, je vois dans les différents choix qui sont proposés, on retrouve Ishikawa, on retrouve ce
Il y a
genre
des modèles, je vous les montre.
de. Est-ce qu'on ça fait partie de la famille des cartographies
Ouais.
heuristiques, des
Là,
cartes heuristiques?
les cartes, vous avez des modèles qui sont vierges. Dans les modèles vierges, tu as la carte classique, la carte équilibrée, dans le sens des aiguillons, dans le sens contraire, l'organigramme, tu peux mettre un organigramme, de bas en haut, de haut en bas, un arbre, donc logique, à gauche, à droite, un diagramme, une ligne de temps, donc ce qu'on vient de dire, hein, la ligne de temps, voilà, on peut la prendre comme on veut. Et donc là, quand on va taper, ça va nous établir. Attends. Là, qu'est-ce qu'on a encore? Une ligne de temps verticale, l'arête de poisson à gauche ou à droite, et on peut faire des matrices tableau. Là, vous avez une partie qui est donc vierge, mais tout le monde, 80% de ceux à qui je fais la formation, oublie que, regardez, ici, il y a une petite possibilité, c'est de cliquer sur modèle. Là, vous avez des modèles dans la version gratuite qui sont préenregistrés. Là, vous voyez que le jaune n'est pas très heureux. Donc, je vais dans mon petit pinceau qui est là. Vous voyez le jaune apparaître là? Je vais mettre un bleu ciel, boum, et en 2 secondes, ça va changer le bleu ciel. Je reclique, je ferme. C'est vraiment user-friendly, normalement. Alors, je vous sens pas encore totalement réceptif. Et ça ne me dérange pas. Maintenant, je vous préviens, je vais vous montrer quelque chose, je veux l'effet waouh. Vous êtes prêts? Alors, on y va.
À distance, préparez-vous également.
Oui, à distance, c'est pareil.
Vous pouvez mettre des pouces, tout ce que vous
Alors,
voulez.
je lève l'effet waouh ou non?
Ah oui.
Donc, si je présente plusieurs pages, vous avez compris, ça m'a généré un plan logique à partir de l'heure de lancement. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut le faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Parce que X-Mind, il est fait pour comprendre les choses dans ce sens-là. Alors maintenant, on essaye de faire de l'autre à l'envers. Et
Ouais,
hop.
c'est plutôt dans ce sens-là que moi ça fait waouh.
Ouais.
Ouais.
Mais ça fait waouh, on est
C'est
d'accord quand
celui-là
même.
qui fait waouh.
Ça fait waouh. Et là, je n'ai pas terminé. Je retourne à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais chercher la carte graphique, enfin pardon, la charte graphique de mon entreprise, et je suis capable de remettre un peu de couleur dedans. Je peux même, il y a même une carte qui met plusieurs couleurs, celle-là. OK?
Excellent.
En 2 secondes. Bon, encore une fois, hein,
C'est l'arborescence qui compte. Donc il y a une. C'est quoi la nomenclature de
c'est
l'arborescence?
partir. Alors, ce n'est pas spécialement bien classé. Hein, si on prend la carte de départ, voilà, on va la reprendre. Et c'est pas, il n'y a pas de 1 et de 2. Hein. C'est juste, on part de en haut à droite dans le sens
Ah
des
ouais,
aiguilles.
bon, juste ça.
D'accord? Juste ça. On est d'accord, elle n'est pas spécialement organisée, cette carte. Hein. OK? Parce que je ne vous ai pas dit non plus, mais quand je suis sorti, je suis dans l'administration, mais quand je suis sorti de la fonction active, je suis en dispo, je me suis occupé d'un diplôme à la fac de médecine, un DU de psychocriminalistique. Donc je formais des enquêteurs, notamment avec il y a des autopsies, moi qui ne suis pas médecin. Hein. Et quand ils sont en autopsie, j'ai vu des médecins d'ailleurs tourner de l'œil, hein, pendant une autopsie. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui vous pose un problème pendant l'autopsie? deux choses.
L'odeur.
L'odeur, c'est facile. Et la deuxième chose, c'est plus psy, c'est ce qu'on appelle la transposition. C'est-à-dire que vous projetez sur ce que vous voyez votre propre image, celle d'un proche. Et vous avez énormément de mal à accepter que, on est quelque part en décomposition très rapidement. Et donc, effectivement, les enquêteurs, ils ont l'outil, et parfois c'est un téléphone, hein, qui permet d'enregistrer en permanence. Pour dire telle constatation, la lésion côté latéral gauche, ainsi de suite. Ouais, t'as raison.
Je vois que tu prends ton téléphone. On l'a en version mobile, si on peut l'utiliser aussi.
C'est aussi pour ça que je suis
Et wow.
avec Xmind. Vous voyez Xmind? Gratuit. Et vous avez les cartes. Vous démarrez la carte. Cliquez dessus. Et elle va s'ouvrir. Si continuez. Et on peut la modifier avec les téléphones. Téléphone, tablette. L'analyse de la crise. Donc la crise, il y a des facteurs internes, il y a des facteurs externes. Comment est-ce qu'on peut la maîtriser? Il y a un impact de la crise. On vient de parler de déclencheur. Et moi, pour moi, il y a des typologies de risques. Il y a des risques techniques, économiques, sociaux, politiques, des risques humains, naturels, sanitaires. Et puis, ce qui est très, très important, je voudrais rendre hommage à un de mes professeurs qui s'appelait Pierre-Yves Kervern. Il y a ce qu'on appelle les ENS, des événements non souhaités. C'est-à-dire que dans toute situation, c'est bien de prévoir ce qui peut se passer, mais il faut toujours prévoir une marge plus large parce qu'il peut se passer quelque chose qui ne s'est jamais passé. Exemple, le Covid. On savait que ça allait arriver, mais on ne savait pas l'ampleur ni comment ça pouvait arriver. Et donc, il appelle ça des événements non souhaités. C'est-à-dire qu'on va partir d'une base de retour d'expérience, de Retex. Moi, je dis pas Rex, hein, parce que d'abord, je suis dans un cabinet expert comptable et Rex, c'est résultat d'exploitation. Et quand je dis Rex, j'ai toujours l'impression qu'il y a un berger allemand qui va arriver. Mais Rex et Retex, c'est pareil. Mais plus sérieusement, ça ne suffit pas. C'est partir de ce qui s'est déjà passé ne permet pas de trouver, encore une fois, la réponse à ce qui peut arriver, parce qu'il peut se passer quelque chose qui ne s'est jamais produit. Et retenez bien, ça s'appelle les syndimiques. Ça vient du grec ancien kindounos, la science du danger. Et lisez Pierre-Yves Kervern, vous qui êtes technicien, c'est quelqu'un, ça va être lumineux pour vous. Les syndimiques. Alors, quand je termine une formation sur le mind mapping, vous, ce n'était pas une formation, on a été un peu plus rapide, mais bon, regardez, je donne mon évaluation à mes participants de cette manière. C'est-à-dire, comment était l'ambiance, l'approche théorique, les rétextes dont on vient de parler, le contenu, est-ce que le transfert a été opéré, l'application des notions, est-ce qu'elle a été transférée, les points spécifiques, la capacité à exposer, les aspects pratiques, est-ce que c'est à reconduire ou pas? Un peu de placement produit quand même, c'est normal. J'en ai parlé, il en a parlé tout à l'heure, Pierre-Antoine, c'est pas moi. Donc oui, alors je ne suis pas l'auteur seul de ce livre, nous sommes trois auteurs. Hein. Et notamment, je dois le citer, Pierre Mongin, qui est le pape français du mind mapping, il en a écrit une vingtaine. Je suis très très fier de travailler avec lui depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est quelqu'un de formidable. Donc voilà, c'est une deuxième édition sur l'art du management visuel. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Et maintenant, j'espère que j'aurai des questions.
Moi, je l'utilise depuis un petit moment de longue date. Jolie phrase, hein, j'essaierai de pas recommencer ça. Mais oui, trois petits partages. La première, c'est que je pense que effectivement, quand on voit une page comme celle-ci, là, ça fait beaucoup de choses avec des codes couleurs qui répondent pas forcément à nos automatismes, etc. Et donc, on peut avoir un peu de réticence à se dire, tiens, on rentre dedans, etc. Mais je trouve que c'est comme tous les outils, en fait, pour pouvoir en profiter pleinement, bah, il faut prendre un petit peu de temps pour comprendre l'intérêt. Et puis surtout, avoir un temps d'acquisition aussi, même si c'est très intuitif, eh bien, il faut dépenser un petit peu de temps pour pas rester trop éloigné. Ou était un petit peu perdu par son usage, voilà, en se disant, ben, ok, j'investis un petit peu de temps, je comprends comment ça fonctionne, et effectivement, après, je vais pouvoir en bénéficier. L'autre petit commentaire, c'est que moi, je trouve, par exemple, j'ai pas mal utilisé à titre personnel, enfin, à titre professionnel, pour des root cause analysis ou des choses comme ça. Et donc, pour avoir une approche restructurée en disant, eh bien, OK, je vais attaquer un sujet par zone, voilà, une zone globale, une zone un petit peu plus générale, etc., etc. Et puis, en fonction de ce qui se passe dans ma tête, je vais pouvoir approfondir telle branche ou telle autre branche. Je trouve que ça aide aussi vachement, c'est-à-dire que, hop, on a une idée, on va la mettre au bon endroit et on pourra y revenir plus tard sans avoir à la détailler à cet instant-là. Donc, je trouve qu'en termes de structuration de l'esprit, c'est bien, mais c'est aussi un petit piège. C'est-à-dire que on peut aussi l'utiliser parce que finalement, avec un outil comme ça, on peut y mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et si on structure pas de façon un petit peu intelligente l'information, c'est-à-dire définir par exemple les niveaux avec des informations de même type qui du coup vont permettre une lecture logique et intéressante, eh bien, on peut à l'inverse être un petit peu perdu. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir une approche un petit peu structurée, un petit peu réfléchie pour utiliser ce genre d'outils. Et puis, le dernier petit partage que je voulais faire, c'était, voilà, j'ai un fils qui est dyslexique, ce qui veut dire un traitement de l'information, de la concentration, de l'approche des choses qui est un petit peu différent, que moi, je comprends pas bien à mon niveau. Et on a fait un travail avec des outils visuels de ce type-là pour l'aider. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, ça va très bien. Est-ce que c'est ça qui a fait que ? Est-ce que c'est d'autres choses ? Est-ce que c'est une combinaison de tout ça ? Je ne sais pas. Mais c'est aussi intéressant d'imaginer que dans mon contexte personnel, ça nous a aidés.
J'aurais réagi à ce que vous venez de dire. En fait, pour tous les 10, hein, c'est un outil qui est utilisé. Pas que les dyslexies, hein, les dysphasiques, enfin, il y a tous les 10 qu'il peut y avoir. Il y a une association des 10 à Lyon, à la DOA, je ne sais pas si vous la connaissez. D'ailleurs, j'ai fait déjà des interventions. La deuxième chose, c'est qu'il faut rester très modeste parce que dans les pays nordiques, c'est un outil qui est utilisé dès le plus jeune âge. Et nous, on le voit maintenant, mais eux, ils le connaissent depuis. C'est pour les enfants. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est très facile. Et pour revenir à cette carte que vous avez sous les yeux, monsieur, regardez, vous avez sur la gauche les séances dans les rectangles. Ensuite, vous avez les thématiques qui sont utilisées. Ensuite, vous avez les supports qui sont en carton jaune. Et puis, vous avez les mind maps d'illustration qui sont… Donc, ça fait 4 niveaux. Et vous voyez que pour moi, il y a bien ces 4 niveaux. Et puis, vous avez un 5e niveau pour certains cas avec les présentations des intervenants que je fais venir parce qu'on a le droit d'avoir des guests à l'EM. Donc, vous voyez que… Votre remarque sur les niveaux, le fait qu'il faut qu'une carte soit structurée, même si elle allait en fouillis, celle-ci, elle l'est. Il faut juste avoir la bonne clé de lecture.
Ouais, je reviens à ton introduction avec les deux cerveaux gauche et droit. Et c'est vrai qu'on a une approche, on va dire, un peu bullet point, très cartésienne qui apparaît là. Et l'autre approche, vraiment, on mixe les deux hémisphères. Quoi. C'est excellent. Mais un grand merci encore, franchement, c'est hyper.
Merci beaucoup. Okay.